Alors, effectivement, on a des calets, il devait y avoir des pluies torrentielles, ben, il n'y a pas de pluie. Mais en tout cas, bon, c'est comme ça et c'est très bien, c'est toujours du direct, c'est l'essentiel. Le syndrome de l'imposteur, corrigé en syndrome de l'imposture, est le dernier livre de Fred Neddart. L'auteur est connu pour ses impostures depuis 2006, réalisées pour différents supports, revues, émissions de télé, bandes dessinées. Fred Neddart a fait ses débuts dans Le Psychopathe et a toujours fait de la bande dessinée. Il a scénarisé les deux derniers Tunique Bleue. Fred Neddart sera avec nous à partir de 14h15. Nous évoquerons aussi le premier roman graphique de Jérôme Lavoine, et puis aussi le second recueil des dessins politiques de Coco. À tout de suite. Écriture dessinée. Bonjour à toutes et à tous. Alors, une brève pour démarrer. Donc, vous l'avez entendu, Issa est en régie, tout va bien. Donc, l'imposture, c'est un sacré programme, vous allez voir. Et on va commencer par une brève, parce que Charlie Hebdo a réuni quatre grands prix du Festival d'Angoulême: Florence Sestac, François Boucq, Françoise Cueuten et Philippe Villemain. Donc des univers graphiques très différents. Et ils ont évoqué la bande dessinée d'aujourd'hui et le Festival d'Angoulême. Et c'est une discussion qui était menée par Gérard Biard, qui est rédacteur en chef de Charlie Hebdo. Et il y avait également Risk, qui est directeur de la publication. Philippe Villemain est d'ailleurs aussi dessinateur à Charlie. Donc, ce qui est important dans cette vidéo, c'est le regard porté sur la bande dessinée contemporaine, donc par ces quatre auteurs qui ont une œuvre chacun et chacune conséquente. Il y a eu plusieurs discussions sur des points importants, comme les nouveaux personnages, quels sont les derniers grands personnages que la bande dessinée a créés, alors que les anciens continuent de vivre à travers d'autres plumes. Il y a une piste de réflexion qui est intéressante. Il y a de très nombreuses années, les premiers festivals d'Angoulême où j'ai participé, c'était au début des années 80, et on évoquait beaucoup les auteurs de bande dessinée comme des peintres frustrés. Et là, il y a une évocation que les nouveaux auteurs étaient plutôt des cinéastes frustrés, tant il y avait une utilisation un peu trop facile des codes du cinéma et qu'il n'y avait plus tout ce travail de fond sur le dessin, sur la mise en scène, sur l'écriture également, et qu'on avait tendance un peu à multiplier les documentaires dessinés, tout simplement parce que les éditeurs en demandent et en redemandent. Donc c'est une discussion, une vidéo à regarder justement parce que on a un point de vue de l'intérieur, et c'est tout à fait salutaire pour bien comprendre l'évolution de ce médium appelé 9e art, et c'est pas pour rien, c'est vraiment un art, et j'essaie de vous le montrer chaque semaine. Les Shadocks. Je le rappelle quand même, c'est Vincent Malone qui est à l'origine de cette courte séquence musicale, et il y a toute l'ironie dont il est coutumier. Pour encadrer ce livre de Fred Neddart, Le syndrome de l'imposture, Je voudrais d'abord commencer avec le premier roman graphique de Jérôme Lavoine, Le Sanctuaire, et puis après on aura le signé Coco qui viendra en fin d'émission. Alors, ce premier roman graphique, c'est toujours un moment important parce que c'est un passage. Jérôme Lavoine est un auteur qui a déjà une carrière graphique importante. Il a fait les arts appliqués dans l'école Pivot sur Nantes et il a travaillé pour le journal Spirou et le journal de Mickey, mais il réalise des affiches de spectacles pour une troupe de théâtre. Et puis, donc, avec Le Sanctuaire, eh bien, il crée une œuvre à partir d'une matière narrative existante, puisque c'est adapté du roman de Laurine Roux, Le Sanctuaire, qui est paru aux éditions du Sonneur. Alors, c'est un récit qui a été très judicieusement choisi. Le récit. Le sanctuaire, une zone montagneuse et isolée dans laquelle une famille s'est réfugiée pour échapper à un virus transmis par les oiseaux et qui aurait balayé la quasi-totalité des humains. Le père y fait régner sa loi chaque jour, plus brutale et imprévisible. Munie de son arc qui fait d'elle une chasseuse hors pair, Gemma, la plus jeune des deux filles, va peu à peu transgresser les limites du lieu. Mais ce sera pour tomber dans d'autres griffes, celles d'un vieil homme sauvage et menaçant qui vit entouré de rapaces, parmi eux un aigle qui va fasciner l'enfant. Alors, dans l'adaptation littéraire, il y a toujours une étape importante qui est celle de la visualisation. On part d'un texte qui est écrit où les lecteurs font à travers leur imaginaire un voyage qui va se nourrir de tous les points, toutes les descriptions, mais également les ambiances, les personnalités. Et ainsi, la lecture est d'une liberté d'interprétation et de visualisation assez importante. L'auteur de bande dessinée, quand il fait son adaptation littéraire, va créer une autre œuvre qui est donc basée déjà sur une interprétation visuelle qui est la sienne. Et donc, les romans vont être avec des formes assez différentes. Le roman de Laurine Roux est très visuel. Il y a donc cette situation dans les montagnes. Nous sommes dans une période où la neige est présente avec ce côté blanc dans la page, dans la case, qui va avoir une importance sur ce sentiment d'isolement, de solitude. Et la neige a cet avantage avec sa blancheur de se confondre avec le blanc de la page. Donc dès que vous avez une image sans cadre, eh bien, elle va prendre encore plus d'ampleur parce qu'elle va profiter de tout le blanc de la page. Donc Jérôme Lavoine va s'approprier ce roman à travers cette vie isolée de autarcique de cette famille, donc père, mère et deux filles, et qui, assez rapidement, on va sentir ces moments de crispation où il va y avoir des caractéristiques de la domination qui se présente, mais c'est pas quelque chose d'outrancier, ça arrive petit à petit dans les propos, dans les certains gestes, mais également dans cette façon aussi d'imposer certains points de vue avec une autorité de plus en plus importante. Au fur et à mesure de ce récit, la résistance, notamment celle de Gemma, va s'affirmer. Et c'est la grande subtilité et la grande qualité de ce premier roman graphique, c'est d'avoir parfaitement dosé dans la mise en image l'évolution de cette résistance et l'évolution de l'expression de cette domination. Il y a donc un récit qui va S'emballer, c'est beaucoup dire, mais on arrive à ça avec une intensification qui va pleinement profiter à la fois au lecteur, au récit lui-même, et qui va être aussi souligné par la mise en image. Jérôme Lavoine, doit mettre en image, avec cette adaptation, un récit d'ampleur, puisqu'il fait 160 pages, et il va donc choisir des cadrages plutôt à hauteur d'yeux, avec une base de quatre bandes, donc un récit qui a un certain nombre de pages, de cases par page, et dans la double page, et qui fait que le récit, facilement, avec le quatre bandes, c'est une de ses caractéristiques, prend une longueur, une intensité, parce que le nombre de cases est quand même un peu plus important. Il y a ce point de vue à hauteur d'yeux, mais il y a aussi le lointain, et c'est aussi une des qualités de l'adaptation de Jérôme Lavoine, c'est de pouvoir, dans une case qui est la même taille que les autres, la même hauteur de bande, d'avoir la possibilité d'exprimer le lointain dans le paysage, donc de contextualiser de façon intense la situation de cette petite maison qui abrite la famille au milieu des arbres, et de montrer ainsi la solitude. Il y a quelques éléments de la modernité, comme une voiture échouée qui est complètement inutilisable et qui marque le repère de l'époque contemporaine. Il y a après, dans le dessin, une volonté d'être plutôt réaliste, d'être proche, avec un dessin au trait. On a cette expression des visages qui apparaît, et qui, grâce au rapprochement du point de vue, on a des images qui sont cadrées, serrées sur les visages, avec cette obligation de travailler le regard pour qu'il capte l'intensité et exprime la position, la réaction et les projets même, on peut le sentir à différents moments, de ces différents individus au milieu de cette époque dévastée. Le dessin est en souplesse. Il y a une façon de tracer qui n'est pas toujours complètement linéaire. Parfois, le trait va s'arrêter. Sur les visages, il va être plus attentif, donc plus fermé, mais toujours précis. Et les gestuels vont aussi profiter de cette précision du dessin, de cette souplesse qui va donner beaucoup de force à chacune de ces images. Et puis il y a les escapades de Gemma, il y a ces moments de chasse, il y a sa découverte d'autres endroits pour pouvoir échapper à l'ambiance étouffante. Et c'est de très beaux moments avec cette matière de la pierre qui va apparaître, ce lointain où on va avoir Gemma en tout petit dans le paysage sur une case comme les autres. Donc beaucoup d'efficacité dans cette construction, dans cette mise en scène, dans ce découpage qui, chaque double page après l'autre, va donner de l'intensité à ce récit. Pour un premier roman graphique, eh bien, c'est déjà extrêmement prometteur. Il y a vraiment une sensibilité qui apparaît à travers à la fois le choix de l'œuvre et son adaptation. C'est une nouvelle œuvre qui est ainsi constituée. Et je pense que Jérôme Lavoine sera un auteur que l'on retrouvera assez rapidement. Le Sanctuaire, donc, de Jérôme Lavoine, s'est adapté du roman de Laurine Roux, Le Sanctuaire également. C'est publié par les éditions Sarbacane. Les 160 pages de ce récit sont au prix de 25 euros et le livre a été imprimé en France.
Pourquoi les gens qui s'aiment sont-ils toujours un peu les mêmes? Ils ont quand ils s'en viennent le même regard d'un seul désir pour deux. Ce sont des gens heureux. Pourquoi les gens qui s'aiment sont-ils toujours un peu les mêmes? Quand ils ont leurs problèmes, y a rien à dire, y a rien à faire pour eux. Ce sont des gens qui s'aiment. Et moi je te connais à peine, mais ce serait une veine qu'on s'en aille un peu comme eux. On pourrait se faire sans que ça gêne de la place pour deux. Mais si ça ne vaut pas la peine que j'y revienne, il faut me le dire au fond des yeux. Quel que soit le temps que ça prenne, quel que soit l'enjeu, je veux être un homme heureux. Pourquoi les gens qui s'aiment sont-ils toujours un peu rebelles? Ils ont un monde à eux que rien n'oblige à ressembler à ceux.
Le syndrome de l'imposteur, pardon, de l'imposture, est un récit de Fred Neddart. Il y raconte les impostures, caméra cachée, canular, pour différents supports, l'écho des savanes, salut les terriens, émission de Thierry Ardisson, Spirou. Tout commence sur un plateau télé dans l'émission C'est mon choix, où l'auteur joue le rôle d'un radin intégral. Avec Fabrice Tarin, il va inventer d'autres impostures. Fred Neddart est auteur et scénariste et coloriste de bande dessinée. Après des débuts dans Le Psychopathe en 89, l'auteur enchaîne librement les projets. Avec Fabrice Tarin, avec qui il crée Spory et Fantasies, dessine des pages fictives de Spirou attribuées à Robvel ou Franquin et Hergé. Toujours le canular. Le duo poursuit avec un Spirou chez les Soviets réjouissant. Fred Neddart a écrit des romans graphiques où il se raconte. Il choisit l'autofiction pour échapper aux contraintes de l'autobiographie et pouvoir réagencer les événements pour en faire une histoire. Fred Neddart est l'actuel scénariste des Tuniques Bleues. Dans le syndrome de l'imposture, il affirme son écriture dessinée riche de ses partis pris. Une régularité de la mise en scène avec l'utilisation d'un gaufrier apportant unité et intensité au récit. Un dessin ironique, bienveillant avec les personnages, précis dans les gestuels, un sens du dialogue et de la place et de sa place dans les cases. Une mise en couleur contrastée, intensifiant une impeccable gestion du temps du récit. Nous sommes avec Fred Neddart pour qu'il nous raconte un peu ce qu'est être un imposteur. Bonjour Fred Neddart.
Bonjour, en fait il y a eu un petit souci, moi je suis Fabrice Tarin, Fred n'a pas pu participer parce qu'il est légèrement indisposé, donc il m'a demandé de le remplacer.
Ah bah oui, alors je ne savais pas.
Ça vous embête pas ?
Non, mais ça m'embête pas. Ben, on va en parler. Vous êtes un des membres du duo créateur de quelques impostures. Donc ben c'est peut-être une imposture que vous êtes en train de me faire remarquer.
Oui, enfin ça pourrait être le cas. Sauf que moi je me suis un peu rangé des voitures depuis pas mal de temps. Hein. Moi je me consacre à Spirou et Fantasio et Astérix. Et en fait, Fred m'a demandé de le remplacer au pied levé. Mais en même temps, je vais vous dire que j'ai découvert sa bande dessinée quasiment en même temps que vous. Et je ne suis pas tout à fait satisfait de ce que j'y vois, parce que là, il ne m'a pas demandé mon autorisation, et donc on est un peu en bisbille l'un avec l'autre par rapport à ça.
Je sais pas pourquoi ça sent quand même le canular, votre histoire.
Ah, vous avez le médecin, bravo.
J'y pensais, je me suis dit, qu'est-ce qu'on va me faire? Bon, et ben voilà.
Ben voilà, vous avez eu le droit, désolé.
Non, mais c'est
C'est
très bien. Mais c'est très
plus
bien.
fort que moi.
Je suis ravi. Vous ne pouvez pas imaginer. Alors, c'est quoi le plaisir de l'imposture? Comment ça se passe? Comment elles arrivent? Parce que c'est quand même un vrai ADN.
Oui, bah c'est depuis tout petit. Moi, j'ai commencé en faisant des blagues à mes parents et à mon petit frère. En fait, c'est le plaisir d'emmerder les gens de façon primaire déjà, hein. Le plaisir de taquiner, on va dire. C'est jamais trop méchant, mais c'est vraiment le plaisir de taquiner.
Comment c'est défini le cadre de ces impostures? Jusqu'où vous avez accepté d'aller?
Oh, bah justement, le but du jeu, c'est d'essayer d'aller le plus loin possible. C'est pour ça que justement, les blagues que je faisais avec Fabrice, c'était un peu une surenchère. Donc, au bout d'un moment, il y en a un qui estimait que c'était suffisant, et l'autre qui disait, non, non, on va continuer, on va déraper un peu plus. On essaie de surprendre l'un l'autre.
Fred Nedard, qu'est-ce qui a déterminé la volonté de le mettre en album, en livre?
Oh, eh ben, bon, d'abord, comme vous l'avez dit, c'est des blagues qui paraissaient, enfin, des canulars qui paraissaient dans la presse, dans l'Écho des Savanes. Et puis, au bout d'un moment, une fois qu'on avait arrêté d'être imposteur professionnel, ben, on se contentait de raconter nos bonnes anecdotes à notre entourage, parce que finalement, ça fait un bon paquet d'anecdotes plutôt croustillantes. Et au bout d'un moment, pas mal de copains nous ont dit, ben, tiens, tu pourras faire une bande dessinée, notamment un camarade qui s'appelle Guillaume Blanco.
Oui.
Qui est auteur de bande dessinée, et qui m'a dit, bah, tu devrais proposer ça à un éditeur. Donc, il y a 2, 3 ans, donc, je discutais avec un copain qui est éditeur, justement, qui s'appelle Frédéric Niff. Il connaissait quelques-unes de mes anecdotes, et en lui disant que je voulais en faire une bande dessinée, il m'a immédiatement dit que ça l'intéressait. Voilà, c'est comme ça que c'est devenu un bouquin.
Alors, avant de rentrer plus précisément dans l'écriture et dans le fonctionnement de votre bande dessinée. Le livre commence avec un plateau télé. Vous jouez le radin intégral.
Ouais.
Alors, quelles sont vos sensations à ce moment-là?
Eh ben, c'est un peu comme les sensations d'un comédien qui va passer sur les planches, sur scène, et qui a le trac. Parce qu'on sait qu'on va s'adresser non seulement donc à un auditoire physique, parce qu'il y a toujours des publics sur ce genre de plateau, mais également à des millions de spectateurs, parce qu'à l'époque, donc c'était une émission qui s'appelait C'est mon choix et qui était très suivie. Donc il y avait un peu la pression de tout ça. Donc je dois dire que juste avant de passer à l'antenne, j'étais dans mes petits souliers, avec un gros trac en coulisses. Et en fait, comme par magie, au moment où l'émission a commencé, mon trac a disparu et je me suis dit, allez, le show va commencer. Et là, je me suis lancé et là, j'ai oublié complètement mon trac. Et mon but, c'était plus que de raconter les choses les plus extravagantes, mais avec un air très sérieux pour que ça puisse passer. Enfin, il y avait un côté très, très exaltant et très motivant dans la mesure où, jusqu'à ce moment-là, j'étais habitué à faire des blagues auprès de personnes, donc c'était un peu individuel. Et là, j'allais imposturer d'un seul coup plusieurs millions de personnes, et là, c'était très très grisant pour moi.
Fred Nedard, est-ce que vous aviez imaginé les suites à une telle participation télévisuelle? Parce que vous les présentez, elles sont quand même importantes.
Les suites?
Oui. Oui, des suites, parce que
Ouais.
vous vous lancez, mais en fait, il y a beaucoup de répercussions derrière.
Bah oui, parce qu'il y a un côté un peu punk de casser un peu la machine, quoi. À cette époque-là, donc on est dans les années, fin des années 90, début des années 2000, je consomme beaucoup de télévision. L'Internet a déjà commencé, mais bon, on est encore balbutiant par rapport aux chaînes de télévision hertziennes qui sont très. Qui correspondent à des grands-messes. Et donc, ça m'amusait justement déjà d'imposturer les gens dans un premier temps, de raconter des bêtises dans ce genre d'émission, et puis dans un deuxième temps, d'exprimer auprès d'émissions télé, justement, que j'avais, que ces émissions, en fait, peuvent être facilement détournées, de casser un peu la machine de ce genre d'émission.
Alors, dans les canulars, il y a des trouvailles qui rappellent, par exemple, des compagnies de théâtre de rue comme Turbo Cacahuète, qui sont donc, par exemple, celles où il y a un canard qui serait soi-disant contaminé, et vous interpellez les passants pour vérifier leur contamination ou non. Est-ce que ce contact direct, qu'est-ce qui l'amène en plus sur l'imposture?
Eh ben disons que la différence entre ce genre d'imposture et du théâtre de rue que vous évoquez, c'est que c'est plutôt les spectateurs qui font le spectacle plutôt que les organisateurs. Et de ce fait, on plonge les gens dans un contexte assez flippant, et donc on ne sait pas du tout comment ils vont réagir. Et nous, on doit improviser par rapport à leurs réactions. Et chaque fois, les réactions sont évidemment... On ne peut pas les programmer à l'avance, quoi. On ne peut pas les deviner. Donc c'est ça qui est amusant. C'est qu'on essaie vraiment de faire en sorte que le spectacle se tourne vers les gens qu'on va piéger et non pas vers une performance que nous, on va faire. On ne se met pas forcément nous en valeur, mais on essaie de faire réagir le public.
Fred Nedard, comment s'est fait le choix des différentes impostures que vous présentez dans le livre ?
Alors, en général, c'est souvent par rapport à l'actualité. Donc, comme on travaillait pour un mensuel la plupart du temps, qui était le Code des Savanes, on checkait un petit peu les actualités du moment. Donc, pour celles que vous avez évoquées, donc, pour le canard, c'était l'époque de la grippe aviaire, c'était bien avant le coronavirus. Donc, on avait décidé d'aller à Bourg-en-Bresse, qui était un peu l'épicentre de la grippe aviaire, et puis de déposer en plein centre-ville un canard mort, et de s'habiller en scaphandre décontamineur pour piéger les gens. Voilà, sinon, oui, souvent c'était ça. Je me souviens qu'il y a donc une vingtaine d'années, on avait annoncé un fait divers un peu sordide. C'était un pédophile multirécidiviste qui s'était fait prescrire du Viagra par un infirmier de la prison. Donc, on avait rebondi là-dessus. Et moi, je m'étais fait passer pour... J'avais souvent le mauvais rôle dans le duo. Hein. Donc, je m'étais fait passer pour le pédophile. On allait dans la pharmacie. Moi, j'arrivais avec une ordonnance pour du Viagra. Et au moment, juste avant où le pharmacien ou la pharmacienne allait me servir, juste derrière moi, il y avait mon complice qui tenait dans les mains un magazine, le magazine détective, sur la couverture duquel on voyait ma photo grimaçante, avec le titre « Pédophile multirécidiviste libéré pour vice de procédure ». Donc le pharmacien découvrait ça, et donc mon complice disait au pharmacien « Vous ne pouvez pas servir ce type, vous n'allez pas être complice d'un monstre ». Et moi je disais au pharmacien « Si, vous êtes obligé légalement de me servir puisque je suis libéré et que j'ai une ordonnance en bonne et due forme ». Donc les pharmaciens étaient pris en étau entre deux choix impossibles à faire. Et donc ça s'est inspiré, comme souvent, donc de faits divers qui faisaient l'actu du moment.
Alors, il y a eu aussi les politiques qui ont été brocardées, puisque vous allez à la quête aux signatures au moment des présidentielles, et vous mettez en scène un canular qui peut être très déstabilisant. Alors là aussi... Oui. Qu'est-ce qu'apportait à cet ensemble ce focus sur les politiques et des mairies, des municipalités, des maires?
Oui. Là, c'est un peu un jeu de sale gosse, c'est-à-dire qu'on a gardé une âme d'adolescent qui aime bien embêter un peu le monde, et sauf qu'on avait des cordes d'adultes. Et là, ça nous amusait d'autant plus de piéger des gens qui sont des maires, donc qui ont une certaine importance, qui font partie des institutions. Donc pour les piéger, la barre était quand même un peu plus haute que pour des quidam moyens, c'est-à-dire qu'il fallait que je me bricole carrément une profession de foi. en tant que candidat au présidentiel. Donc on allait voir des petites mairies et on expliquait à chacun des maires que moi j'étais candidat pour le présidentiel, que j'avais déjà récolté 497 voix, il m'en manquait 3 pour en avoir 500, les 500 nécessaires, et que j'étais prêt à tout pour avoir ces trois dernières voix. Donc quand on se présentait, toujours avec Fabrice Tarin, moi, on arrivait en costume, assez austère, avec une mallette dans laquelle les maires découvraient des liasses de billets. Il y avait des vrais billets sur le dessus et des faux billets sur le dessous. Et on leur disait, voilà, on veut bien vous laisser le 40 000 euros en liquide, en cash, pour vous. Et on vous propose la compagnie de notre jeune escorte. Donc on était venu avec une amie qui était complice et qui était habillée de façon assez, suggestive. Et donc il y avait ces pauvres mères de village qui se retrouvaient avec une prostituée et de l'argent qu'on leur proposait d'échanger contre une signature. Donc ils perdaient complètement les pédales. Et c'était ça qui était amusant.
Fred Nedart, qu'est-ce que ça vous apprend? Qu'est-ce que ça vous a appris? Comment regardez-vous nos sociétés contemporaines à travers ces réactions à vos impostures?
Souvent, c'est avant tout message sociologique, je dirais que c'est plutôt... souvent, au départ, c'est un peu gratuit, comme happening. Mais au bout d'un moment, on s'aperçoit que chacun peut avoir une forte crédulité, y compris par nous, d'ailleurs. On a commencé par nous, parce que Fabrice et moi, on aime bien se faire des blagues l'un à l'autre. Mais c'est vrai que parfois, on s'aperçoit que le fameux dicton « plus c'est gros, plus ça passe », ça fonctionne bien. Et on est toujours étonné par ça, par la crédulité des gens.
Alors, dans le livre, il y a vos filles,
oui,
qui font le lien entre la période passée des premiers canulars et les derniers. Alors là, oui, aussi, il y a une sorte de transmission qui se fait ainsi, transmission d'une époque à travers, oui, ce regard rétrospectif.
Ben oui, mes filles, ce sont mes premières lectrices. Avant que le livre soit imprimé, je leur montrais au fur et à mesure que je les faisais les pages. Et donc, elles réagissaient directement par rapport à ça. C'est toujours important pour un auteur d'avoir un premier lecteur, un premier lectorat. Ça permet aussi de rectifier le tir. Et là, ce qui est intéressant, c'est que vraiment, elle m'a porté le regard de la nouvelle génération, la Gen Z, comme on dit, hein, les gens qui sont nés après l'an 2000. Et c'est vrai que c'est là que j'ai mesuré l'écart entre l'époque où je faisais ces canulars, hein, les années 90-2000, et l'époque actuelle. Et on s'aperçoit qu'il y a un énorme changement, alors pour le meilleur et pour le pire. Je dirais pour le meilleur aussi parce que certaines blagues qui étaient vraiment des blagues de très mauvais goût passeraient moins maintenant. Ça veut dire qu'il y a une sorte de moralisation. Alors moralisation, ça peut se prendre du bon côté aussi et aussi du mauvais côté. Hein. C'est vrai que les boomers vont dire qu'on ne peut plus rien dire, et puis les gens qui sont plus progressistes vont dire que cette évolution de la société se fait est favorable justement pour protéger les minorités et les personnes qui ont pendant très longtemps ont été. On était l'objet de moqueries ou d'ostracisme. En tout cas, oui, il y a une évolution de la société que je peux mesurer justement entre le moment où je faisais ces blagues et l'époque actuelle. Peut-être certaines blagues que je ferai plus maintenant ou que je ferai différemment.
Fred Nedart, il y a des personnalités qui vous ont inspiré dans... puisque ce type d'imposture existe depuis pas mal d'années. Est-ce qu'il y a des gens, oui, qui sont un peu dans votre panthéon?
Oui, chez les blagueurs, vous voulez dire?
Chez les blagueurs, et pas les blogueurs. Oui.
à commencer quand j'étais petit, moi je regardais La Caméra Invisible, Jacques Legras. C'était avec mon grand-père, on regardait ça, et c'est vrai que j'étais toujours fasciné par ça. Il y avait parfois des dispositifs qui étaient vraiment sympas. Et puis, pour les blagueurs, ensuite, on a eu des gens comme Lafesse, Jean-Yves Lafesse, qui, pour moi, vraiment, je le compte dans mon panthéon aussi. C'est quelqu'un qui avait un sens de l'improvisation incroyable et aussi une certaine poésie dans ses blagues. C'était pas uniquement de la blague potache, mais parfois, ça dérivait vers un surréalisme qui était incroyable. Et pour les blagueurs plus actuels, il y a François Damiens aussi qui est, on va dire, un modèle, parce que lui, il arrive à introduire dans ses canulars un côté, il dérape complètement, quoi. Et il sait se montrer sous son pire jour. Il a aucune pudeur par rapport à ça. Il a vraiment une sorte d'autodérision incroyable. Et je pense que c'est lui qui allait un peu le plus loin dans le dérapage.
Fred Nedard, je vous propose une pause musicale avec Suzanne Gabriello. Mm-hmm. Et on se retrouve donc dans deux petites minutes pour parler plus dessin, mise en scène, très okay. Couleur. A tout de suite.
À tout de suite.
Avec ceinturon et gants blancs pour les égayer. Les auto-séduites s'arrêtent bien vite pour les admirer au passage clouté. Car ils sont bien jolis, les flics de mon pays. Aïe, 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 aïe. Avec leurs bâtons blancs, leurs sifflets, leurs képis. Aïe, 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 aïe. Il faut les voir dans le soleil, en tenue d'été, cachés dans une petite guérite pour les abriter. Leur veston tout blanc est si engageant qu'on leur demanderait un demi s'il vous plaît. Car ils sont bien jolis les flics de mon pays. Aïe 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 aïe. Car ils sont bien jolis les flics de mon pays. Aïe aïe aïe.
Vous êtes sur Radio Escapade dans l'émission Écriture dessinée. Nous sommes en direct avec Fred Nedart à l'occasion de la parution qui est toute chaude, là, je crois que c'est demain, de son dernier livre, Le syndrome de l'imposture, avec un petit jeu sur le titre qui était au départ Le syndrome de l'imposteur.
Oui, mais alors c'était déjà pris.
Ah, c'est une bonne correction, donc. Fred Nedart, comment s'est fait le passage du canular vécu à sa mise en scène? Vous êtes auteur de bande dessinée, c'est vraiment votre activité principale. Uh-huh. Vous avez choisi un découpage très régulier avec ce trois bandes, cette base de gaufrier qui fonctionne très bien. Comment s'est fait ce choix et voilà, donnez-nous un peu l'arrière-plan.
Oui, disons que oui, comme vous dites, je suis auteur de bande dessinée en temps quasiment complet. Jusqu'à présent, enfin moi je travaille à la fois pour des licences de bande dessinée populaires comme Les Petits Bleus et Spirou, et parallèlement donc je faisais ce qu'on appelle pompeusement des romans graphiques sous l'angle de l'autofiction, c'est-à-dire mélange entre l'autobiographie et de la fiction, hein, comme on dit. Et d'ailleurs, ces bandes dessinées pourraient presque se qualifier elles-mêmes de canulars, parce que pour certaines, je faisais croire que c'était de l'autobiographie. J'ai fait des bandes dessinées dans lesquelles le personnage porte mon nom, donc c'est censé être vrai, sauf que c'était un mélange de vrai et de faux. Mais quand j'ai fait cette bande dessinée où je raconte mes impostures, j'ai décidé de raconter rien que la vérité, toute la vérité. On part du principe que ce genre de sujet, si on commence à raconter des choses fausses, ben ça n'a plus aucun intérêt. Voilà. Maintenant, vous me parlez de la forme, c'est-à-dire des petits cas en gaufrier, etc. Ben, je me sentais pas de partir vers une mise en page trop alambiquée, avec des images pleines pages, etc. Parce que déjà, j'ai un complexe au niveau du dessin. C'est mon syndrome de l'imposteur. Je ne me suis jamais vraiment senti purement dessinateur, parce que j'ai souvent toujours été entouré par des dessinateurs bien plus brillants que moi. Donc je me suis contenté de raconter ça dans des petites cases, avec les moyens du bord, avec une gamme de couleurs un peu réduite aussi, sans faire des brouffes.
Mais pourtant, Fred Nédard, vous êtes dessinateur, parce que vos personnages, ils sont campés, ils sont là, les gestuelles sont précises, même si c'est pas du réalisme absolu.
Non, j'essaie de dessiner, de pas dessiner au-dessus de mes moyens. Donc c'est un dessin qui reste assez simplifié, assez stylisé.
Alors, quel dessinateur êtes-vous quand vous êtes sur votre table à dessin? C'est besogneux, il y a de l'énergie, il y a un travail préparatoire qui cadre un peu la démarche?
J'essaie d'être le plus expressif possible déjà, en termes de gestuelle et en termes de mimique, de visage, donc d'aller droit à l'essentiel. Et en termes de dialogue aussi, j'essaie d'être le plus précis possible, le plus réaliste possible. Hein, la bande dessinée, c'est pas de la littérature. Les personnages doivent parler comme dans la vraie vie. Donc je fais en sorte qu'on les entende. Je suis un peu comme je vais me comparer à un de mes confrères que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Gustave Flaubert, qui lui avait un gueuloir chez lui. Donc il testait ses textes tout fort dans son gueuloir. Voilà, moi je suis un peu ça.
Donc vous lisez à haute voix vos dialogues pour voir si ça sonne?
C'est ça, exactement. Ouais. Pour que ça fasse vivant, quoi.
Il y a beaucoup de corrections une fois le...
Oh là là, oui, mon bon monsieur. Oui, il y a beaucoup de corrections parce que heureusement, on va dire, je ne suis pas en auto-édition, je travaille avec un gros éditeur. Et cet éditeur-là, il est très scrupuleux dans ce qu'il fait paraître, et parfois il y a des choses qui peuvent plus ou moins bien passer, donc on va dire qu'il y a des allers-retours, des fois il y a des grosses discussions sur certains passages, parce qu'évidemment je raconte des situations qui sont parfois un petit peu dérapantes, un peu extrêmes, et qui sont pas forcément de bon goût. Donc c'est vrai qu'on a déjà eu des petites discussions animées avec mon directeur de collection, mon directeur d'édition. C'est pas de tout repos, mais c'est ce qui fait l'intérêt aussi du métier, les interactions.
Vous avez choisi une mise en couleur, Fred Nédard, qui est plutôt contrastée, avec une palette réduite, et qui permet, oui, en tout cas de passer d'une temporalité à une autre, d'un lieu à un autre, avec beaucoup de fluidité. C'est là aussi, c'est un choix bien évidemment déterminé.
Oui, ben oui, parce que on va dire que ce sont une succession d'événements, une succession d'anecdotes qui apparemment n'ont pas forcément de rapport direct les uns avec les autres. Hein. Je passe, comme vous le disiez tout à l'heure, du pédophile sans scrupule à un terroriste islamiste. Ensuite, je deviens le premier naturiste de Paris-Plage. Et puis après, je vais imposturer des mairies, où je me fais passer pour un architecte qui va construire des immeubles de 30 étages sur la plage. Donc chaque fois, c'est des univers qui sont différents. Pour marquer cette différence, Ben oui, je choisis des gammes de couleurs différentes qui permettent justement de gagner en lisibilité. Voilà. Au-delà de toutes ces anecdotes qui sont toutes plus différentes les unes que les autres, bon, il y a quand même un fil rouge, c'est justement mon questionnement par rapport à tout ça. En disant, ben, est-ce que tout ça a vraiment du sens? Et l'intervention justement de mes filles à l'heure actuelle qui me questionnent sur ce travail, sur cette période de ma vie, permettent justement de donner un peu un fil rouge à tous ces événements.
Fred Neddart, est-ce que ça peut devenir une série? Est-ce qu'il y a d'autres canulars à retranscrire?
Alors, peut-être pas une série, parce que là, comme je vous disais, je me suis un peu rangé des voitures, mais en revanche, vous me demandiez tout à l'heure d'où venait tout ça, quelles étaient les racines du mal. Eh bien, cette bande dessinée, en fait, c'est le premier volume d'une série de deux volumes, où je suis en train de travailler justement sur le deuxième tome, qui racontera justement comment j'en suis arrivé là. Voilà. Au moment où justement l'histoire se termine dans mon premier bouquin, je présente une de mes impostures lors de laquelle je vais tester le slogan de McDonald's, venez comme vous êtes. Donc moi, comme j'explique, au moment où j'entends ce slogan, venez comme vous êtes, ben moi je suis sous ma douche, je me sèche, je suis tout nu, et je décide de voir si je peux vraiment aller au McDonald's comme je suis, c'est-à-dire totalement à poil. Voilà, donc je me rends tout nu chez McDo, et à ce moment-là, j'ai un petit doute qui me traverse l'esprit, et je me dis, mais comment t'as fait pour en arriver là? T'es complètement à poil en pleine ville, et tu vas aller dans ce restaurant tout nu. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu en es arrivé là? Tu as 35 ans, à l'époque j'avais 35 ans, la plupart des gens de mon âge ont un métier sérieux, et moi je suis payé pour me balader à poil dans un resto. Donc, suite à cette introspection, ben je vais raconter dans le deuxième tome comment j'en suis arrivé là, c'est-à-dire, ça va remonter très loin, je vais raconter mes blagues depuis ma plus tendre enfance, et même encore plus loin que ça, parce que quand j'étais gamin, j'adorais mon grand-père, qui lui aussi était un gros farceur, et qui me racontait aussi les énormes canulars qu'il faisait quand il était gamin. Donc on va dire que ça nous fait remonter jusqu'au début du XXe siècle, cette histoire.
Merci beaucoup, Fred Neddart. On sera au rendez-vous pour le tome 2, ça c'est sûr.
Avec plaisir.
Et puis, je vais rappeler les caractéristiques de votre livre, donc le syndrome de l'imposture. Donc, c'est publié par les éditions Dupuis. Alors, donc, NIF a été un éditeur intermédiaire. C'est votre éditeur avec qui vous avez travaillé.
C'est ça, exactement. Voilà. Frédéric NIF, oui.
Et donc, les 134 pages de votre livre sont au prix de 21,50 €. Il a été imprimé en Belgique, je crois.
Voilà, le syndrome de l'imposture, exactement.
Eh bien, très bonne continuation. Et puis, on a hâte de voir cette rentrée dans le McDonald's comme vous êtes.
Merci beaucoup. Merci à vous.
À très bientôt. Au revoir.
À bientôt. Au revoir. Merci.
It's finally time to go. Doesn't usually take as long as this. Could not avoid it. Travel cost a fortune. Can't afford to stay. Most of my work is east of here. That won't change. Even the ocean can get old. Addicting, yes, and won't let go. Loving it as much as I do. Won't pay the bills, that's the truth. And I don't own a gold mine. Don't own.
Voilà, pour terminer, je voudrais vous présenter le recueil de Coco, intitulé « Signé Coco ». Coco, c'est cette dessinatrice de Charlie qui a ouvert la porte aux frères Kouachi, qui en a été bien évidemment complètement bouleversée, et qui, dans « Dessiner encore », raconte ça et la suite après. Coco va intégrer le journal Libération en 2021. Elle va succéder à Willem. Et donc, on a un recueil. Alors, pas seulement des dessins de Libé, mais il y en a aussi qui ont été publiés dans Charlie Hebdo. Et puis, il y a aussi des dessins inédits, puisque c'est un peu le principe. Coco livre 2-3 dessins sur une actualité et c'est la rédaction qui va choisir parmi ces 2 ou 3 dessins. Alors, nous sommes dans ce principe du dessin politique avec cette histoire de Charlie par rapport au dessin politique qui a donc une matière, qui a une intensité, des excès et parfois des manques d'excès, mais en tout cas toujours une puissance, une force qui vient aussi de toute cette histoire du dessin de presse et que la liberté d'expression protège avec parfois des difficultés, mais qui en tout cas permet d'avoir cette efficacité du dessin politique. Si vous aviez encore des doutes là-dessus, le simple fait de lire ce signé Coco, et qui caractérise un peu le dessin politique par cette insolence du trait et cette lucidité du regard. Le livre est présenté pas du tout par ordre chronologique, mais vraiment par thème. C'est souvent le cas pour le dessin de presse ou le dessin politique. Et on a donc un ensemble de dessins, soit un dessin par page, soit deux, puisque c'est souvent des formats carrés. Et on a donc une place qui est faite pour le dessin et qui permet vraiment d'en profiter et d'en avoir toute l'intensité. Donc tous les grands thèmes de la politique sont bien sûr balayés et on a à chaque fois c'est le résultat du travail de Coco, cette façon de traiter de l'actualité. Elle est immergée dans la lecture d'articles, dans un suivi absolument régulier, pour garder constamment le fil et être dans cette synthèse que permet le dessin politique et surtout dans cette façon de pointer de manière puissante, incisive, cette insolente, cette actualité. Et c'est souvent à travers le dessin politique que l'on a des raccourcis qui permettent de mettre en perspective un élément de l'actualité et qui fait qu'on l'intègre encore mieux. pas étonnant que ça soit la chose, la première chose qui est lue sur un quotidien. Il y a un point supplémentaire dans ce livre qui sont les commentaires que va faire à plusieurs reprises Coco sur des dessins. Et il y a notamment un commentaire qui est tout à fait étonnant pour ce qu'il révèle de la situation aujourd'hui. Coco fait un dessin sur le ramadan à Gaza et parle début d'un mois de jeûne. Et il y a une femme qui va faire, une Gazaoui qui va faire respecter auprès de son jeûne le ramadan. Et ce dessin a déclenché une horde de réponses absolument nauséeuses de la part de différentes personnes sur les réseaux sociaux. Alors, il y en a qui sont habitués à ça. Et puis, elle va recevoir un message de Sophia Chikirou, qui est une députée LFI. « Vous n'aurez pas notre haine, mais vous la méritez. » Et le commentaire est justement de comprendre, d'essayer d'imaginer ce qu'il y a derrière un tel propos. Et c'est plusieurs pages où elle décrit, elle, en tant que dessinatrice, comment prendre ça, comment prendre ce torrent de propos nauséeux qui lui ont été adressés. Alors, elle a le soutien de son rédacteur en chef, de son directeur de la rédaction, de nombreux confrères, des dessinateurs de Charlie. Il y a eu vraiment une profession qui s'est associée à elle pour qu'elle puisse se sentir portée. Et ça a été extrêmement important. À plusieurs reprises, donc, Coco va faire ses commentaires sur certains points d'actualité et sur certains dessins. Il y en a un notamment sur un dessin qu'elle a fait sur l'IVG aux USA et cette loi qui supprimait la loi fédérale qui permettait aux Américaines d'accoucher, de pratiquer l'IVG. Donc, c'est une loi qui était très importante et sa suppression pouvait entraîner un recul en arrière de plus de 50 ans. Et son dessin a été d'une grande puissance. C'est le drapeau américain avec à la place des étoiles des cintres et puis les bandes rouges. Eh bien, c'est la trace de sang faite par des femmes qui pratiquent une IVG clandestine, dans des conditions extrêmement difficiles. Ce dessin a fait le tour du monde et Coco va nous expliquer le contexte, comment ça s'est passé, et c'est extrêmement enrichissant. Des manifestantes et manifestants aux États-Unis ont repris ce dessin, l'ont agrandi, l'ont mis sur des pancartes et ont défilé avec. C'est un point important parce que ce n'est pas simplement des dessins qui sont là dans un périodique, mais en tout cas, à travers ces commentaires, ça nous permet d'avoir la portée même du dessin et de comprendre cette nécessité absolue de la liberté d'expression. Il y a vraiment des dessins remarquables et en tout cas une constante, c'est cette façon d'aller au plus près de ces problèmes de société, de ce qui fait le bruit du monde et d'être là dans cette dénonciation à travers le dessin avec une force toujours, elle est là. Coco est aujourd'hui là, il y a quelques dessins, je ne peux pas les raconter, celui sur l'IVG, ben c'était celui que je pouvais présenter, mais tous ont cette intensité. Un recueil de 4 ans de dessins, donc signé Coco, c'est publié par les Arènes Bande Dessinée. Il y a pour ce livre, je retrouve, voilà, donc 352 pages, ça permet vraiment d'être au plus près de son travail. Son prix est de 28 euros et il a été imprimé en Italie. Le précédent, Dessiné encore, est un livre qui avait été vendu à 40 000 exemplaires. Et c'est une très bonne chose que le dessin de presse et politique puisse être vu ainsi, élu. Merci, Issa, pour cette technique. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine avec d'autres invités. Et on va voir s'il y en a d'autres qui arrivent à faire un canular comme celui de Fred Neddart. Bon après-midi à tous sur les ondes de Radio Escapade. Écriture dessinée.